rancuné.
Ça va faire mal.
Non, non, c'est rancuné.
Ça va faire mal.
Comme les États-Unis.
Ça va faire mal. Ça va faire mal.
Quand nous serons unis.
Ça va faire mal.
Quand nous serons unis.
Ça va faire mal.
Comme le Royaume-Uni.
Ça va faire mal. Ça va faire mal.
On pourra contrôler. On sera respecté. On pourra dialoguer. On pourra s'imposer. Ça va les étonner de nous voir évoluer. C'est quand nous serons unis.
Ça va faire mal.
Quand nous serons unis.
Ça va faire mal.
Comme les États-Unis.
Ça va faire mal. Ça va faire mal.
Quand nous serons unis.
Ça va faire mal.
Quand nous serons unis.
Ça va faire mal.
Comme le Royaume-Uni.
Ça va faire mal. Ça va faire mal.
On pourra s'opposer à ceux qui veulent s'imposer. On pourra résister aux pays développés. On pourra bien lutter contre la pauvreté. Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme le Royaume-Uni,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Quand nous serons unis.
Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans cette quatrième émission de Africa en mouvement. Une émission qui se veut votre forum pour débattre et trouver des solutions aux grands enjeux dont fait face l'Afrique. Au microphone depuis le studio Nelson Mandela de Radio Deniba à Moline, dans l'Illinois, vous avez Didier Agnagué. Et à la technique, Théo Bono.
Faisons donc attention à toutes ces oppressions. Évitons l'ascension.
Eh bien, amis auditeurs, notre émission de ce jour se penchera sur la problématique de l'aide au développement et notamment à qui profite réellement cette aide. Pour en débattre, nous recevons un invité de marque depuis Vienne en Autriche. Il s'agit du docteur Yves Eke Amaizo. Il est directeur de Afrocentricity, think tank et consultant international.
Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme les États-Unis,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Quand nous serons unis.
Ça va faire mal.
Quand nous serons unis.
Ça va faire mal.
Comme les États-Unis.
Ça va faire mal.
Ça va faire mal. Et bien comme nous vous le disions, nous allons recevoir Dr Yves Eke Amaizo dans cette émission. Alors bonsoir Dr Yves Eke Amaizo.
Bonsoir, comment allez-vous?
Ah, ça va très bien.
Merci beaucoup.
Ok, merci pour avoir répondu à notre invitation. Et comme l'avons annoncé à nos auditeurs, nous allons débattre de la thématique de l'aide au développement et notamment à qui profite cette aide. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, nous allons directement tout droit dans le sujet en vous posant cette première question. Est-ce que vous pouvez nous élucider le concept de l'aide au développement? Qu'est-ce que l'aide au développement?
C'est une très bonne question. En fait, les deux concepts, l'aide d'une part et le développement de l'autre, sont des concepts qui sont en fait contradictoires. Parce que l'aide au développement, d'emblée, il faut dire que le développement lui-même doit normalement éteindre l'aide. Si vous vous développez bien, vous n'avez pas besoin de l'aide. Mais on sait que l'aide, si vous en avez trop, ça peut empêcher le développement. Donc, il faut bien être clair, on ne développe pas quelqu'un ou un pays, contrairement à ce qu'on croit beaucoup en Afrique. On se développe en s'appuyant sur des outils qui accélèrent ou modernisent le processus de création de richesses. Il faut créer des richesses et il faut bien sûr les répartir de manière équitable. Donc vous voyez bien que si vous créez la richesse et que vous les répartissez bien, en gros, vous faites de l'autosuffisance, mmh. ce qu'avait le Togo dans les années 60, mmh. vous n'avez pas, en principe, besoin de l'aide au développement. À partir de là, l'aide, quand vous le pensez dans sa globalité, il y a le rapport de force. Il y a une hiérarchisation, parce que celui qui vous donne, il est en principe plus puissant que vous, mmh. dans son rôle. Mmh. Il vous contrôle, il contrôle vos décisions. Donc vous perdez votre autodétermination, même votre choix. Vous voulez faire une route ou mettre l'électricité dans telle ou telle rue, mais si c'est moi qui finance votre aide, je peux décider que vous n'aurez pas cette rue ou de cette manière. Voilà comment la plupart de nos routes et de nos chemins de fer africains sont des chemins de fer qui vont chercher les minerais, l'amènent au port et exploitation sans transformation, sans industrialisation et donc sans emploi. Mmh. Ce n'est pas étonnant que nous ayons 60% de jeunes qui n'ont pas le travail. Mmh. Alors, l'aide aussi veut signifier que c'est une assistance passagère, momentanée. C'est un appui, un soutien. Mais le soutien peut aussi devenir un effet de levier. Une personne malade, handicapée, âgée, utilise une canne pour se soutenir. C'est un levier. Mais si vous enlevez la canne, il tombe. Mmh. Ou elle tombe. Mmh. Donc, on peut avoir l'approche positive de l'aide. Donc, vous avez la canne qui vous soutient, vous marchez bien. Ou vous n'avez pas de canne, ou une fausse canne, alors vous tombez. Donc l'aide peut avoir une connotation négative. Auquel cas, celui qui vous fournit cette aide peut aussi avoir des objectifs non avoués et peut, sous prétexte de vous aider, alors finalement vous garder dans l'état où vous êtes, voire même de vous faire reculer dans votre développement. Donc la notion de passager est très importante parce que si ce n'est pas passager, ça devient définitif et que vous êtes systématiquement en train de demander de l'aide, à ce moment-là, vous êtes carrément à crédit de manière indéterminée, ce qui est arrivé souvent avec les institutions financières internationales. Mmh. Du coup, vous êtes devenu un dépendant, un vulnérable et finalement un esclave. Mmh. Alors, juste pour donner quelques chiffres quand même, le Togo en 2013 avait pour l'aide publique au développement, vous voyez, je dis bien l'aide publique, pas l'aide privée, l'aide publique, donc les États... Mmh. donne de l'aide au Togo, 221 millions. Mm-hmm. Mais quand vous rappelez la diaspora que nous sommes, nous avons envoyé 280 millions, presque 300 millions. Donc nous envoyons plus d'argent collectivement en tant que diaspora que l'aide au développement. Mm-hmm. L'investissement n'était que de 84 millions. Et ça, c'est le chiffre de la Banque mondiale. C'est-à-dire que si la diaspora s'était organisée, non pas pour envoyer cet argent de manière individualisée à des individus, leurs familles essentiellement, et inscrire ça dans la consommation, nous sommes une force terrible pour le développement. Mais encore faut-il être organisé en tant que diaspora, cibler ce que nous voulons faire développer. Le problème, c'est que si vous le faites comme ça, l'argent qu'on envoie aujourd'hui, malheureusement, sert en fait à éponger la pauvreté grandissante du fait d'une très mauvaise gouvernance mmh. qui crée des inégalités et du coup a fait que cette pauvreté en augmentation... La diaspora ne peut pas oublier sa famille et ses amis, donc envoie l'argent pour essayer de sauver un peu ce que le gouvernement n'arrive pas à faire, c'est-à-dire la création de richesses.
Ok, merci docteur. Et maintenant, vous venez de parler d'aide publique, donc à vous entendre aussi, il y a l'aide privée. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de l'aide privée ? Qu'est-ce que cela s'agit ?
Alors, l'aide privée... Comme le mot le dit, mmh. c'est d'abord de quelqu'un de privé, mmh. donc quelqu'un qui n'a pas une relation directe avec l'État, et il faut séparer tout de suite entre les organisations non gouvernementales, mmh. souvent des associations, et, ou des fondations, ou carrément des personnes privées ou des structures morales, des entreprises privées. Vous savez qu'aux États-Unis, mmh. vous n'êtes pas, si vous donnez une partie de vos bénéfices en tant que société privée, à une institution de type caritative, ou bien une ONG, organisation non gouvernementale, ou bien une association, mmh. alors vous n'avez pas, vous pouvez le déduire de vos impôts. Oui. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça.
C'est ce que nous appelons ici donation.
Voilà. Il faut considérer ça comme de l'aide privée. Mmh. Mais vous savez dans la pratique que celui qui fait ça ou celle qui fait ça ne se gêne pas pour faire des activités qui l'arrangent. Et qui souvent même sont des activités non pas du tout pour faire une fondation ou bien un don ou une donation, mais en réalité pour s'assurer que demain, vous allez travailler avec lui pour faire encore plus d'argent. Mmh. Donc, cette aide privée, il faut faire très attention. Quelle est sa finalité ? Parce que je peux très bien vous donner, par exemple, des excédents de céréales américaines ou espagnoles ou françaises dans votre village. Ce qui fait que dans 5 ans, tout le monde est devenu fainéant dans le village. Vous ne produisez plus. Et du coup, moi qui vous ai habitué à des céréales gratuites, ben, j'arrête ou j'augmente le prix. Et voilà tout un village qui va mourir de faim. Donc, il faut faire très attention que c'est une dynamique de l'aide. Et si on ne l'utilise pas bien, on a un gros problème. Deuxième élément important, c'est que l'État occidental, souvent, peut utiliser l'aide publique au développement pour soutenir des entreprises privées occidentales en Afrique. Du coup, on peut utiliser l'aide publique, qui est donc l'aide qui vient des contribuables occidentaux, vers les pays africains, par exemple, prenons le Togo, pour financer une route, par exemple. Mais sur cette route, vous allez vous apercevoir que c'est surtout les entreprises occidentales qui vont l'utiliser pour prendre une matière première X qu'ils vont exporter sans transformation du pays, depuis le légume, depuis le fruit, jusqu'à un minerai quelconque. Donc vous voyez aussi que cette aide peut servir d'effet de levier, non pas à la population destinataire africaine, mais bien sûr à celui qui donne cette aide-là. Donc ce lien entre l'aide publique et l'aide privée ne peut fonctionner que si on a un pouvoir souverain pour empêcher cela. Et ce n'est pas évident. Il y a un troisième problème que je n'ai pas dit, qui est très important, qu'on appelle la fongibilité du budget d'un gouvernement. C'est-à-dire que quand vous privez, vous m'envoyez de l'argent en tant que gouvernement togolais, ça rentre dans les caisses du gouvernement togolais. Si vous, public, l'État français ou américain envoie de l'argent, ça rentre dans les caisses de l'État togolais. Les deux sont fongibles, c'est-à-dire sont mélangés. Donc vous voyez que maintenant, celui qui a reçu cet argent, dont le gouvernement togolais, se décide d'affecter ou pas cet argent là où il veut. Donc, il peut créer la clientélisme, il peut donner à ses amis, et généralement, vous savez, les évaluations sont ce qu'ils sont, et donc, il ne se passe pas grand-chose. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il peut avoir un arrangement entre celui ou celle qui donne l'aide publique au développement, avec celui ou celle qui va recevoir l'aide, et du coup, faire que des systèmes se perdurent pendant longtemps, sans que vous ne puissiez arriver à les modifier. Et il faut bien le comprendre. Sinon, quand on veut faire de l'alternance ou des changements ou des modifications d'un système, d'abord, il faut pouvoir stopper des mécanismes qui s'auto-entretiennent et qui permettent à ce moment-là, puisqu'on a les moyens, d'avoir aussi les moyens de la décision.
Ok. Donc, pour vous résumer sur cette première question, nous pouvons dire que l'aide au développement peut être publique et privée. Et cette aide a une connotation positive dans une certaine mesure et une connotation négative dans la plus grande mesure. Donc, nous allons...
Oui, allons-y. Attendez, il y a un point important qu'il faut dire aussi, qui devient très... qui est d'actualité. C'est que l'aide... J'ai dit tout à l'heure que... Quand on fait une assistance, ça doit être de courte durée. Oui. Mais quand vous utilisez cette aide maintenant pour faire quelque chose, supposez que nous ayons du charbon au Togo et je finance, moi, avec mon aide publique ou privée, cette mine de charbon ou de phosphate, puisque nous avons le phosphate, mais qu'en produisant ce phosphate avec tous les dérivés, je pollue. Hein, je pollue la mer, vous connaissez la mer au Togo, une fois c'est bleu, une fois c'est orange ou ça change de couleur. Cette pollution tue tous les poissons, donc je suis en train de tuer tous les pêcheurs qui n'ont plus de poissons à manger parce que c'est chimiquement contaminé. D'accord. Qui doit payer pour ce dégât-là ? Donc il faut que le développement lui-même soit durable, c'est-à-dire que durable dans le sens où nous ne détruisons pas l'écosystème, nous ne détruisons pas ce que Dieu nous a déjà donné de base, c'est-à-dire la mer avec ses poissons, en y jetant des produits chimiques dont il faut mettre des filtres. Donc, il faut que ceux qui gèrent le phosphate ou le charbon mettent des filtres pour que l'eau qui va sortir de cette usine soit propre et ne détruise pas la mer. Donc, vous voyez, le côté durable est aussi là dans le sens du développement. Donc, l'aide ne doit pas être durable, mais le développement doit être durable.
Merci, docteur. Le développement doit être effectivement durable. Nous allons marquer une toute petite pause et revenir à notre invité depuis Vienne, en Autriche.
C'est la voix de mon Afrique. Madagascar.
Génération consciente.
C'est la même voix qui crie au Togo.
Génération consciente.
C'est la même voix qui crie au Niger.
Génération consciente.
C'est la même voix qui crie au Mali, Sénégal, Congo, Brazza. C'est dommage que ceux qui sont censés incarner notre aspiration et qui par orgueil s'accrochent au pouvoir et nous mènent jusqu'à l'abîme sont ceux qui se font les victimes, alors que c'est pourtant le peuple qui est victime de leur cupidité et de leur égoïsme dans le sang. Où est passé Dadis Camara? Où est passé ton frère Robert Gueye? Où est passé Laurent Kabila au Congo? Où est passé Mamadou Tandja au Niger? Où est passé Charles Taylor Labéria? L'Afrique est victime des politiciens égoïstes. On a même l'impression qu'ils s'en foutent de nous. Sinon, comment Mr. President peut-il s'accrocher au pouvoir alors que le peuple lui dit tout simplement de s'en aller? Il prétend lutter pour le peuple et il sacrifie le même peuple juste pour montrer qu'il est le plus fort. Et nous, on en a marre. C'est pas la même voix que crie Claudie Fiard.
Génération consciente.
Et c'est la même voix que crie Tikenja Fakoli.
Fakoli.
C'est la même voix qui crie au Faso.
Génération consciente.
Par la même voix que parle Samska le Dja. Que font nos dirigeants pour arrêter la prise du pouvoir par la force et le coup tordu de nos constitutions, faire respecter les droits de l'homme? Les partis politiques sont devenus des équipes et le pouvoir est devenu le trophée qu'il faut gagner à tous les prix. Et pendant ce temps, c'est le peuple malmené qui se retrouve dans la misère au nom de la génération consciente. Et nous, on en a marre. C'est la même voix qui crie en Côte d'Ivoire.
Génération consciente.
Monsieur le Président, moi j'ai plus confiance.
Génération
quitte le pouvoir. Monsieur le Président, rentrez dans l'histoire.
Génération consciente.
Tu as gâté ton nom.
Génération consciente.
Ton gouvernement pour quel peuple?
Génération consciente.
Monsieur le Président, moi j'ai plus confiance.
Eh bien, amis auditeurs, vous êtes dans l'émission Afrique en mouvement sur www.radiodenigman.com, émettant depuis Moline aux USA. Nous sommes en train de débattre de la thématique de l'aide au développement et notamment à qui profite cette aide. Et nous recevons depuis Vienne en Autriche, Dr Yves Ekwe Amaizo. Dr Yves Amaizo, vous venez de planter le décor sur le concept de l'aide au développement. Notre deuxième question est celle-ci. Comment et pourquoi est née l'idée de l'aide au développement?
Alors, sur l'historique, on peut remonter très loin, mais sachez qu'après la Deuxième Guerre mondiale 1945, beaucoup de pays européens ont bénéficié de ce qu'on appelait le plan Marshall. C'était un financement pour reconstruire toute la destruction qu'il y a eu du fait de la guerre. Mais en réalité, beaucoup de gens ne le savent pas. C'était surtout pour bloquer l'avancement du communisme et du socialisme, qui était promu par l'Union soviétique à l'époque, et l'Afrique, qui à l'époque n'était ni communiste ni socialiste, n'était pas jugée dangereuse, n'avait même pas une capacité de nuisance. Donc l'Afrique n'a pas bénéficié du plan Marshall. Et donc, en remplacement à ce plan Marshall, on a imaginé, et là, on dépasse 1945, on remonte à l'esclavage, l'exploitation et toutes ces choses pour essayer, en gros, de payer une somme pour pouvoir calmer. Alors, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'un peu plus tard dans les années 60, en fait pour être précis 1955, vous avez eu les mouvements des non-alignés de Bandung. Donc beaucoup de d'États voulaient être ni du côté de la Russie, et à l'époque l'Union soviétique, ni du côté des pays occidentaux, notamment les États-Unis et l'Europe. Donc il fallait être au milieu, non-alignés, on n'était pas alignés sur l'un ou l'autre. En réalité, les pays les plus puissants comme l'Inde ou bien l'Égypte pouvaient bouger, mais les petits pays comme le Togo et autres, bon écoutez, on était déjà en 1955, on n'est pas encore indépendant, mais de toute façon, on était dans une ambiance où on ne menaçait personne. Et donc les Occidentaux ont trouvé l'idée que pour éviter que ce groupe nouveau qui est en train de se créer, des non-alignés, ne devienne très puissant et vienne les concurrencer, de démanteler d'avance ce groupe qui était en constitution. Et ce groupe, on a pensé que si on leur donnait un peu à manger, c'était les 1% du produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse des pays occidentaux riches, si 1% de leur richesse était consacré à donner et donc à faire de l'aide au développement à ces pays pas encore indépendants, mais qui vont devenir indépendants, alors peut-être qu'on peut les influencer de ne pas être dans les non-alignés, ou s'ils y vont, qu'ils y vont en tant que traîtres et qu'ils viennent défendre les Occidentaux. Voilà l'idée de base qui a permis à la mise en place de ce 1%. Mais il y a eu beaucoup de bagarres, personne ne voulait payer, et on est rapidement tombé à 0,7% de cette richesse-là. Et je vous dis la vérité, en réalité, on n'a jamais et que rarement atteint les 0,7% de richesse, sauf les quelques pays scandinaves comme la Suède, la Norvège, qui respectaient les 0,7%. La plupart étaient à 0,4, 0,5, et la France aujourd'hui est à 0,35 à peu près, et donc vous voyez bien que c'est même la moitié. Mais, comme je vous ai dit au départ, on vous donne 0,35%, mais avec un retour sur investissement. On vous donne 0,35% pour s'assurer que le secteur privé occidental puisse se développer chez vous, faire de l'argent chez vous, et bien sûr, créer l'emploi chez eux. Et donc, du coup, il ne faut surtout pas transformer. Donc, les 0,3% de l'aide publique au développement a surtout servi à ne pas faire l'industrialisation dans nos pays au départ. Pour être concret, quand on a l'ananas, quand on a la mangue, il ne fallait surtout pas le transformer. Quand on a la tomate et qu'on avait la carotte, il ne fallait surtout pas faire la tomate en boîte. Quand on a les plantes pour faire le magie, on ne va surtout pas le faire, on le fait à l'occidental, on le fait chez les occidentaux, et l'emploi est créé là-bas, et du coup, ni la formation a suivi, et ni l'emploi a suivi, et vous connaissez les connaissances, les conséquences aujourd'hui. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur l'historique de cette aide au développement, qui aujourd'hui est en train de baisser, il faut le savoir, de plus en plus, c'est-à-dire qu'on essaie de faire que ce soit le secteur privé qui puisse prendre la relève, puisque le secteur privé est devenu tellement riche, international, global, mondialisé, qu'il n'a même plus besoin de cet État pour soutenir.
Ok, merci docteur. Vous avez dit que normalement l'aide ne doit pas être échelonnée dans le temps. Bon, est-ce qu'il peut y avoir un plan Marshall pour l'Afrique actuellement?
Alors, je n'ai pas dit que ce n'est pas échelonné dans le temps. Échelonnement veut dire que vous recevez de l'aide chaque année, par exemple. Donc ça, c'est l'échelonnement. Mm-hmm. Vous pouvez recevoir de l'aide de manière échelonnée. Ce que j'ai dit, c'est que l'aide ne doit pas être durable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas systématiquement chaque année recevoir de l'aide, sinon ça va vous rendre déresponsable. Vous n'êtes plus responsable, ça va vous rendre fainéant, vous ne voulez plus travailler, parce que c'est la facilité. Mm-hmm. Oui? Alors, votre question, prenez un autre aspect de cela. C'est-à-dire que si on doit pouvoir recevoir, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait. Mm-hmm. Oui? Donc, est-ce que c'est ça qui répond à votre question?
Partiellement, puisque nous savons que le plan Marshall a en quelque sorte aidé un peu l'Europe à renaître des cendres de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que, comme vous le dites, l'aide ne doit pas être continue, si je comprends bien votre intervention. Mais ma question est maintenant, puisque nous avons l'impression que l'Afrique est dans l'assistanat éternel, et ma question est celle-ci. Puisque nous savons qu'il y a eu le NEPAD qui voulait que l'Afrique puisse être aidée dans une certaine mesure. Donc, est-ce que on peut revenir sur l'idée de plan Marshall une fois pour toutes pour l'Afrique?
Cette question, il faut être très, très clair et ne pas tromper les auditeurs. Je vous ai dit que le budget du plan Marshall qui avait été donné aux Occidentaux, notamment de l'Europe, mais aussi à la Corée du Sud, a été d'abord fait pour contenir le communisme de la Russie et de l'Union soviétique. Comme ce problème n'a jamais eu lieu en Afrique, vous pouvez être sûr qu'il est quasiment sûr aussi qu'on n'aura jamais un plan Marshall sur le continent africain. Parce que ceux qui doivent le financer ne voient pas en quoi nous les menaçons. Vous voyez ? Surtout qu'ils arrivent à contrôler nos gouvernements, ils arrivent à contrôler nos matières premières, ils contrôlent l'électricité, l'eau, l'Internet. Qu'est-ce qu'on contrôle ? Très peu. Même les pays les plus puissants comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud, ce n'est pas évident même là-bas. Ils restent dépendants. Alors, premier point, le plan Marshall tel que vous le concevez ou comme on l'avait dans le temps, il faut oublier, ça c'est impossible. Maintenant, l'Afrique, l'Union africaine a développé le nouveau partenariat pour le développement qui est le NEPAD, partenariat économique. Sauf que les Africains, en tout cas qui dirigent, ce sont des grands parleurs. Ils font le tam-tam de la bouche. Quand vous faites du tam-tam, vous faites du bruit. Et quand vous faites du bruit, à un moment donné, vous devez vous réunir pour payer. Et quand on a demandé à ces 54 chefs d'État, rajoutez le Maroc qui n'est pas membre de l'Union africaine 55, de contribuer pour mettre de l'argent, pour soutenir ce NEPAD, mais ils ont tous disparu. Ce qu'il y a dedans est très 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 peu. Et donc on revient aux Occidentaux en leur demandant de financer nos programmes à nous, de l'infrastructure, l'électricité, un certain nombre de choses. Qu'est-ce que... Je vous ai dit tout à l'heure, c'est que celui qui veut financer va décider ce qu'il veut financer. Si vous voulez une route qui vous arrange vous, mais n'arrange pas celui qui va financer, il ne vous la fera pas. Si vous voulez une industrie qui va empêcher, une industrie de tomates par exemple, au Togo, alors qu'on a la grande saison, il y a plein de tomates au Togo ou de mangue, et que vous recevez des sociétés locales comme S3G et autres qui importent la tomate concentrée, et que certains touchent des dividendes en fin d'année de ça, vous êtes sûr que ces gens-là ne sont pas d'accord que vous fassiez une industrie de transformation de tomates au Togo. Parce que si vous le faites, vous stoppez les importations, vous stoppez tous les bénéfices qui vont avec. Il suffit maintenant qu'il y ait une sorte de jeu entre les États ou les gens puissants et ceux de l'extérieur qui importent et donc exportent vers nous pour que ça continue de manière indéfinie. Donc le NEPAD va chercher le financement de ses projets, de ses idées sur le marché international. Donc l'argent privé. Malheureusement, quand c'est de l'argent privé, d'abord on ne le trouve pas, parce que je crois qu'il y a moins de 10 ou 15% des programmes de NEPAD qui sont financés. Et quand on le trouve, mais il y a des conditionnalités, comme quand c'est l'argent public, comme quand c'est l'argent privé. Et ces conditionnalités vous obligent à rembourser relativement rapidement aussi. Donc quand vous n'arrivez pas à le faire, on donne ce qu'on appelle les garanties de l'État. Quand l'État donne sa garantie pour faire tel ou tel projet, et que vous ne réussissez pas, alors la dette que vous avez créée retourne à l'État, et l'État doit le payer. Et l'État souvent négocie pour payer plus tard et plus tard. Ce qu'on appelle les délais de grâce. Et souvent, on s'organise, les Occidentaux souvent d'ailleurs, s'organisent pour que ça tombe bien au moment où il va y avoir une alternance d'un régime ou d'un pouvoir, de l'alternance de l'opposition qui devait les déranger. Mais comme ils sont asphyxiés financièrement, ils ne peuvent pas les déranger. Donc tous ces calculs, il faut les avoir à l'esprit. Et c'est comme ça que vous voyez qu'on peut aller dans la santé, dans l'éducation, dans tous les domaines que vous voulez. Mais ce dont vous avez besoin, si ce n'est pas vous qui le payez, vous risquez de ne pas l'avoir si vous comptez uniquement sur l'aide au développement.
Merci docteur pour avoir répondu à cette deuxième question. Comme quoi nos dirigeants ne sont que de grands parleurs. Nous allons souffler un tout petit peu.
Le monde va à la dérive.
Aïe, aïe, aïe.
Des guerres par ici, par là. Des bains de sang pour toi, mais pourquoi? La haine triant sur l'amour. Aïe, 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 aïe. Nous dirigeons, enlevons à la place du cœur. Mais pourquoi ça doit faire mal de vivre chez soi?
Dites-moi.
La des conditions misérables qui nous laissent si minables. Oh, pourquoi souffrir autant Nos vies soient simples, soient claires, sans guerre, remplies d'amour. C'est de voir les sœurs et les frères, les enfants de même père toujours unis.
My dream.
C'est de voir l'Afrique et l'Europe, le ciel et la terre toujours en harmonie. Plus de temps de réfugiés, plus de soucis ni d'envie de s'exiler. I dream, I have a dream. Do you got a dream aussi? Dans nos éducations s'envolent.
C'est vrai, ouh yeah.
Ils font place à l'aliénation, la perdition. Oh nana, le conflit de générations a un siècle avancé. Oh non, les familles divisées, oh, ouais, oh, pour ouais. Des héritages, les foyers disloqués. Pourquoi? Alors qu'on pourrait leur porter un peu d'amour et peu de chaleur.
Oui, c'est ça.
C'est de voir les sœurs et les frères, les enfants de même père toujours unis. C'est de voir l'Afrique et l'Europe, le ciel et la terre toujours en harmonie. Plus de temps de réfugiés, plus de soucis ni d'envie de s'exiler.
I dream,
I have a dream. Do you got a dream aussi?
I dream, I dream.
Tell me.
Chers auditeurs, nous sommes dans l'émission Afrique en mouvement et nous recevons depuis Vienne en Autriche, Dr Yves Ekwe Amaizo. Et nous sommes en train de débattre de la problématique de l'aide au développement. Alors, docteur, à qui profite réellement l'aide au développement?
Alors, vous savez, si je vous dis exactement à qui ça profite, je ne suis pas sûr qu'on va me garder ma tête sur mon corps. Mais en réalité, l'aide au développement, il faut d'abord comprendre que c'est devenu, au fil du temps, au cours de ces 50 dernières années, non plus un outil d'aide, mais un véritable outil efficace pour influencer. Il faut comprendre ça. C'est d'abord pour influencer, c'est pas pour aider, c'est pour influencer. C'est très important. L'Africain n'arrive pas à comprendre ça. Et donc, l'aide publique au développement qui sert d'instrument, sert d'abord les intérêts de ceux qui fournissent justement cette aide. Et ceux qui fournissent cette aide en attendent un retour sur investissement. Donc ils vont vous influencer pour qu'on fasse quelque chose chez vous dont eux vont profiter en priorité. Accessoirement, vous pouvez garder quelques miettes. Donc, à qui profite réellement l'aide au développement? L'aide au développement profite d'abord à celui qui va vous donner cette aide-là. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin, disons, de partenaires pour le faire. C'est pour ça qu'on a besoin que si des gens qui viennent au pouvoir et défendent les intérêts de la population, ils vont faire que l'aide au développement aille aux populations. Vous avez vu le cas de Thomas Sankara au Burkina Faso. En 2-3 ans, il n'y a pratiquement plus eu de corruption et l'argent est parti directement dans les populations avec des effets bénéfiques très rapides. Mais si ceux qui dirigent, souvent mal élus ou pas élus du tout, choisissent de ne pas servir en priorité le peuple, mais ceux qui envoient l'aide au développement, alors ils deviennent des complices, des agents, voire des traîtres aux intérêts des populations. Et donc l'aide au développement va aider d'abord celui qui donne cette aide, mais aussi celui qui contribue à ce que cette aide retourne dans les pays occidentaux. Et donc, parfois, il arrive que ce soit des agents africains au pouvoir, ou parfois qui ne sont pas au pouvoir, légalement ou illégalement, quand il s'agit de corruption. Alors, ça ne met pas en cause certaines organisations non gouvernementales dont on a parlé au début. Parce qu'elles aussi font du très bon travail, quand il s'agit de la santé, quand il s'agit de l'éducation, etc. Mais imaginez bien, à force d'envoyer les médecins sans frontières dans nos pays, est-ce que vous avez vu souvent qu'on utilise des médecins africains qui sont nombreux dans la diaspora ? Très nombreux. Non, on continue à ce que ce soit souvent des occidentaux et on s'assure qu'eux continuent. Donc l'aide devient durable dans ce domaine particulier et peut aller très loin, jusqu'à même, vous croyez qu'on vous amène un vaccin, on peut vous inoculer avec un virus et on va vous dire que c'est ceci ou cela, avec tous les problèmes de sanitaires qui vont avec. Donc il faut toujours s'interroger sur les finalités poursuivies stratégiquement. Stratégiquement, celui qui va vous donner de l'aide n'a pas intérêt à ce que vous en profitiez. Faut se mettre cela dans la tête. Malheureusement, du fait de la naïveté, du fait des facilités, du fait aussi du court terme qu'adorent beaucoup les Africains en général, bon, quand c'est là, on mange. Mais si vous mangez pour être malade demain, il ne faut pas vous interroger d'où vient et pourquoi l'aide au développement a été organisée. Donc, je me résume, l'aide sert d'abord à influencer, en profite en direct ceux qui d'abord vous envoient cette aide-là, et en seconde main, disons, ceux qui contribuent à ce que cette aide n'aille pas aux destinataires réels, nos populations, mais plutôt que ça retourne vers ceux-là qui l'ont envoyé, ou profite à ceux qui sont intermédiaires, que ce soit l'État ou des structures que celui qui a créé l'aide ou qui envoie l'aide, lui-même d'ailleurs souvent crée.
Donc, maintenant, pour contourner ce problème de naïveté que vous avez évoqué dans votre intervention tout à l'heure, nous avons beaucoup d'élites qui sont formées ici en Occident et qui retournent au pays. Maintenant, comment nous pouvons résoudre ce problème-là pour que l'aide puisse effectivement profiter à ceux à qui il est destiné? Et comment faire pour que l'aide puisse effectivement profiter plus aux Africains qu'à ceux qui nous aident?
Bon, moi, ma réponse va vous étonner. Moi, je vous dirais que vous n'avez pas besoin d'aide au départ. Il faut que vous vous mettiez culturellement dans la tête que vous pouvez vous organiser et ne pas avoir besoin de l'aide. Parce que si vous vous débrouillez pour mettre 2, 3, 4 poules avec un coq, vous aurez des œufs et vous pouvez donc commencer à manger. Si vous mettez 2, 3 porcs et le porc fait 7, 8, 10, 15 portées, vous allez manger. Il faut penser créer de la richesse. Il faut penser créer de la valeur d'abord. Si vous n'avez rien et que vous avez besoin d'aide, alors que cette aide vienne une fois ou deux fois, mais pas plus. Malheureusement, ce n'est pas ça la pensée. C'est que la pensée, la culture veut que, ah non, celui-là a beaucoup d'argent, et donc il n'a qu'à continuer à m'envoyer de l'aide régulièrement. Alors, vous avez parlé maintenant des élites. Il faut faire très attention aux élites. Il y a des élites africaines qui sont allées à l'école, beaucoup de diplômes, beaucoup de ceci, et quand ils rentrent, ils peuvent choisir soit de défendre les populations, mais il peut aussi choisir de défendre justement ceux qui envoient l'aide et vous raconter des histoires, vous faire croire que ceci est bon pour vous et ceci est moins bon pour vous. Et comme vous ne savez pas, mais vous tombez dans le piège. Donc il faut faire très attention de distinguer. Ce n'est pas parce que vous êtes allé à l'école que vous avez une connaissance, un savoir-faire ou même une technologie que vous êtes nécessairement quelqu'un qui veut aider vos populations. Vous pouvez même, sans le savoir, travailler contre vos populations. Et ça arrive assez régulièrement. Donc, pour résoudre le problème que vous dites, il faut créer des gens qui sont des patriotes, des gens qui aiment leur pays, qui aiment leur population, et qui soient des experts autonomes, et qui jugent régulièrement des finalités de l'aide qui vient, du budget qui vient, et vers qui ça va. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut stopper complètement l'aide budgétaire. C'est-à-dire que l'aide ne doit pas partir. L'aide, il faut le savoir, ce sont les impôts que paye tel ou tel pays riche qu'il va être envoyé soit directement en bilatéral, France ou Allemagne ou États-Unis, soit en multilatéral, les Nations Unies ou l'Union Européenne, vers les pays africains. Mais ça va où ? Dans les caisses de l'État. Alors, si c'est l'État qui reçoit et l'État doit redistribuer, vous voyez tout de suite le problème. L'État va redistribuer à qui ça l'arrange, qui ne lui crée pas des problèmes, qui ne le critique pas. Vous voyez bien le problème de fond. Alors, il faut que cette aide n'aille pas nécessairement dans le budget, mais aille directement à celui qui en a besoin. Pour être concret, si vous avez l'hôpital de Kara ou de Lomé qui a un problème, ou le marché de Lomé ou de Kara qui sont brûlés, et que quelqu'un veut me donner de l'aide, Alors je lui demande que cette aide aille directement à un groupe constitué de représentants du marché de Lomé ou de Kara, qui vont demander d'abord de reconstruire, demain d'amener des voitures de pompiers et de former des gens pour que si jamais quelque chose comme ça arrive, on puisse le prévenir et en tout cas arrêter l'incendie rapidement. C'est simplement un exemple pour dire que oui, l'argent qui sort de l'aide au développement peut aller directement à celui qui en a besoin. L'argent qui sort du port de Lomé, vous voyez, ou de la zone franche, ou du phosphate, ou du coton, peut aller directement à l'hôpital ou au lycée de Sokodé, ou aller dans un centre de construction de l'eau pour arriver dans tel ou tel village à Dapaon ou à Kara. Pourquoi doit-on faire passer l'aide par un centre commun qui est l'État? Et cet État est souvent incapable, parfois incompétent et souvent corrompu. Et ne fait pas que l'aide arrive au destinataire et refuse qu'on le juge. L'accountability. Il refuse qu'on compte les comptes. La vérité des comptes, elle est fondamentale au même titre que la vérité des urnes. Parce que si celui qui est là-bas ne vous représente pas, comment voulez-vous qu'il vous fasse des comptes? Puisque l'argent n'est plus pour vous, c'est pour lui. Donc, il faut apprendre simplement à servir l'autre et ne pas se servir soi-même.
Merci, docteur. Donc, pour vous résumer, en quelque sorte, l'aide profite plus d'abord à ceux qui aident et plus à ceux qui reçoivent qu'au destinataire même. Nous allons...
C'est juste.
Ouais, allez-y.
C'est juste.
Allez-y, s'il vous plaît.
C'est juste. C'est juste.
Ok, merci docteur. Nous allons souffler un tout petit peu et écouter un élément avant d'arriver à notre dernière question de l'émission de ce jour.
L'île n'imaginera à quel point le grain du pauvre a nourri chez nous la vache du riche. Dans le cas de l'ex-Haute Volta, le processus était encore plus exemplaire. Nous étions la condensation magique, le raccourci de toutes les calamités qui ont fondu sur les pays dits en voie de développement. Le témoignage de l'aide, présenté comme panacée et souvent trompété, sans rime ni raison, est ici éloquent. Très peu sont les pays qui ont été comme le mien, inondés d'aides de toutes sortes. Cette aide est, en principe, censé œuvrer au développement. On cherchera en vain dans ce qui fut autrefois la Haute Volta, les signes de ce qui peut relever d'un développement. Les hommes en place, soit par naïveté, soit par égoïsme de classe, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu maîtriser cet afflux extérieur, en saisir la portée et exprimer des exigences dans l'intérêt de notre peuple. Analysant un tableau publié en 1983 par le Club du Sahel, Jacques Giry, dans son ouvrage « Le Sahel de demain », conclut avec beaucoup de bon sens que l'aide au Sahel, à cause de son contenu et des mécanismes en place, n'est qu'une aide à la survie. Seul, souligne-t-il, 30% de cette aide permet simplement au Sahel de vivre. Selon Jacques Giry, cette aide extérieure n'aura pas d'autre but que de continuer à développer les secteurs improductifs, imposant des charges intolérables à nos petits budgets, désorganisant nos campagnes, creusant les déficits de notre balance commerciale, accélérant notre endettement. Juste quelques clichés pour présenter l'ex-Haute Volta. 7 millions d'habitants avec plus de 6 millions de paysannes et de paysans. Un taux de mortalité infantile estimé à 180 pour 1000, une espérance de vie se limitant à 40 ans, un taux d'analphabétisme allant jusqu'à 98%, si nous concevons l'alphabétisé comme celui qui sait lire, écrire et parler une langue. Un médecin pour 50 000 habitants, un taux de scolarisation de 16%, et enfin, un produit intérieur brut par tête d'habitant de 53 356 francs CFA, soit à peine plus de 100 dollars. Le diagnostic, à l'évidence, était sombre. La source du mal était politique. Le traitement ne pouvait qu'être politique. Certes, nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser.
Alors, docteur, vous venez d'écouter Feu Thomas Sankara qui prononçait ce discours en octobre 1984 à l'ONU. Pour le résumer, en quelque sorte, il disait que l'aide doit nous aider à nous passer de l'aide. Et beaucoup de gens actuellement aussi sont à décrier l'aide. Et ma question est celle-ci. L'Afrique peut-elle un jour se passer de l'aide au développement?
La réponse est oui. Est-ce que vous savez qu'un pays comme la Libye, avant que les interventions occidentales n'arrivent, n'avait pas besoin d'aide, que la Libye, au contraire, soutenait beaucoup de pays? Est-ce que vous saviez que l'Algérie n'avait pas besoin d'aide avec les sanctions sur le pétrole? Donc, il s'agit bien, non pas la notion de l'aide en tant qu'aide qui pose problème, mais ce qu'on en fait. C'est comme un couteau. Le couteau en soi, c'est neutre. Vous pouvez manger votre chachanga ou kalami ou une bonne viande de steak américaine, le T-bone avec, ou vous pouvez aussi devenir le premier des plus grands assassins notoires. Donc vous voyez bien qu'il ne faut pas s'attaquer en tant que tel à l'aide, mais il faut s'attaquer aux humains qui font une certaine utilisation de cette aide dans un sens qui n'arrange pas la société dans son ensemble, les populations dans leur ensemble. Il y a une bonne partie, ce sont des naïvetés et des erreurs. Il y a une autre partie, c'est sûrement volontairement qu'ils veulent créer une société d'inégalité et d'injustice. Et Thomas Sankara l'a bien dit à la fin, et je le dis tous les jours, ça déresponsabilise. À force de recevoir gratuitement, sans vous fatiguer, du riz à manger et de l'eau, mais vous finissez par oublier que pour faire le riz et l'eau, il faut travailler. Il faut d'abord travailler. Et on travaille, c'est dans le travail qu'on apprend comment on veut organiser sa société. Hein? C'est pas tout le monde qui est intéressé à voir le grand luxe que nous voyons dans les pays occidentaux. Des gens, des pays peuvent vivre très pauvrement, chichement, mais heureux. Et on oublie que la finalité du développement, cette fois-ci, ce n'est pas d'avoir de l'argent. C'est d'abord d'être heureux, un mieux-être, de réduire les pénibilités. Quand on a créé la machine à laver le linge, ce n'était pas parce qu'on voulait faire un super progrès, c'est qu'on voulait que les femmes essentiellement, mais les hommes aussi aujourd'hui, mais ne perdent plus d'abord le temps à laver, que ce soit une machine qui le fasse de manière automatique, et qu'en moins d'une heure, vous avez 5 kilos de linge qui est lavé, propre, vous n'avez plus qu'à faire sécher, vous avez même la machine à faire sécher. Donc vous voyez bien que la finalité est un mieux-être, un bien-être pour vous. Donc tout ce que vous voulez bien financer, si vous pouvez vous-même obtenir cet argent en vous organisant autrement, transformant vos produits, créant de la valeur ajoutée, améliorer des services comme le tourisme et autres, mais vous pouvez être autonome, autosuffisant et du coup dégager un surplus, une marge, un bénéfice. Et ce bénéfice, vous le réorientez vers un investissement, soit productif, soit social, qui améliore le bien-être de vos populations. Mais ça, c'est une culture, c'est une mentalité qu'il faut avoir. Et ça vient depuis la formation à l'école, depuis le jardin d'enfants. Est-ce que c'est ça que nous apprenons à nos enfants à l'école? Est-ce que c'est comme ça que nous voyons l'avenir? Vous savez, vous-même, quand vous rentrez au pays en tant que diaspora, la première chose qu'on vous demande, c'est l'argent. Maintenant, les arguments sont extraordinaires. Comment on peut vous soutirer votre argent? J'ai mal aux dents, j'ai mal aux fesses. Ma grand-mère, ma tante est malade. J'ai ceci, j'ai cela. Et quand vous résumez, mais écoutez, c'est que vous devez sortir de l'argent. Et si vous vous amusez à jouer à ce petit jeu, vos vacances de 3 semaines vont se réduire à 1 jour. Et on va même vous insulter que vous n'avez pas donné suffisamment. Donc, vous voyez bien que c'est un problème culturel qu'il faut prendre dans sa globalité, cette histoire de l'aide au développement. Il ne faut pas prendre des positions bloquées, carrées. Il faut comprendre qu'il s'agit d'abord, fondamentalement, de l'influence pour vous empêcher d'être autonome, pour vous empêcher d'être indépendant, pour vous empêcher de prendre une décision en autonomie. Et à ce moment-là, on vous amène à vous aligner, on vous amène à vous déresponsabiliser, on vous amène dans la servitude, on limite votre souveraineté, que ce soit un individu, que ce soit une famille, que ce soit une région, une ville, un État. C'est en fait le même principe qu'il y a derrière. Il faut donc être vigilant. Qu'est-ce que nous faisons de cette aide et est-ce que ce développement va servir au bien-être, au mieux-être de chacun d'entre nous avec une répartition, si on crée la richesse, une répartition équitable pour que chacun puisse vivre comme il pense être bien pour qu'il soit heureux. C'est ça là, le fondement. Mais si on ne cherche plus à être heureux, mais on cherche seulement l'argent, les 4x4 et se faire voir et paraître, je crois qu'on se trompe.
S'il vous plaît, docteur, comment maintenant pourrons-nous changer la mentalité ou bien la culture actuelle que nous avons en Afrique qui nous pousse à avoir la tendance à demander? Comment pourrons-nous changer cette culture-là? Puisque nous avons des richesses en Afrique que nous pouvons mettre en valeur et pouvoir se passer de l'aide au développement.
Mais la première chose, c'est culturel. Il faut absolument apprendre à vos enfants, à mes enfants, à nos enfants, le goût du travail et de l'indépendance. C'est très important. Si vous avez un enfant fainéant, vous risquez demain d'avoir un pays dépendant qui va aimer l'aide. Si vous avez un enfant travailleur qui se dit « je suis autonome, je n'ai pas besoin de l'aide de mon papa, de ma maman, je n'ai pas besoin de son héritage, je veux moi-même être quelqu'un », il va réussir à l'école, il va être autonome, il va créer de la richesse, il va même en distribuer autour de lui. C'est cette richesse collective-là qui va aller. Maintenant, comment il faut le faire? D'abord en expliquant, en parlant. Il faut commencer par l'éducation à l'école. Il faut que notre diaspora, quand elle rentre, qu'elle dise la vérité, que les gens ne sont pas nécessairement heureux dans les pays occidentaux, qu'il y fait froid, et qu'en hiver, ce n'est pas évident, qu'on paye beaucoup d'impôts. Bon, il faut dire la vérité à nos gens en Afrique. Ça va réduire nos migrations. Les gens courent pour aller mourir dans la Méditerranée. Mais est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas? Je ne peux pas mettre un enfant pour lui dire aller mourir dans la Méditerranée s'il savait que l'autre côté, il n'y a rien, il ne sait pas mieux. Vous voyez ce que... Donc il y a beaucoup d'éducation, de l'information à mettre en place. Malheureusement, les États ne le font pas. Au contraire, ils nous laissent justement dans le fait de ne pas savoir. Regardez les télévisions, regardez les émissions. Si toutes les télévisions africaines se mettaient à devenir des télévisions pédagogiques, c'est-à-dire que les émissions sont faites pour apprendre quelque chose, non pas pour se moquer de nous-mêmes, non pas pour faire des films où on ne comprend pas le début et la fin uniquement parce que tout ceci est fait pour s'amuser, mais pour apprendre, pour comprendre et garder ce que nous sommes. Nous sommes afrocentriques, c'est-à-dire que nous cherchons le bien de l'autre. Nous n'avons tué personne, nous n'avons envahi aucun peuple, nous n'avons colonisé aucun État. Nous ne sommes pas allés mettre en esclavage quelqu'un. Vous voyez bien historiquement la valeur de ce que c'est que l'Africain ou l'Afrique en général. C'est très important. Notre aide à nous, c'est une aide culturelle de faire le bien. Nous avons amené la danse, nous avons amené la musique à tous ces gens qui font les malins aujourd'hui, mais c'est les rythmes africains qui ont amené tout ça. Vous voyez? Donc nous avons une autre conception, même l'oralité. L'oralité, pourquoi nous ne n'écrivons pas, mais nous parlons? Parce que nous avons confiance dans l'autre et que Dieu qui nous a créés nous a donné cette confiance-là. Et quand on écrit, c'est qu'on est voleur. Et qu'on écrit pour être sûr que l'autre ne va pas mentir quand on va lui dire qu'il a dit quelque chose. Vous voyez? Donc nos cultures à nous sont très importantes à valoriser depuis l'Égypte ancienne. Et si nous développons ces cultures comme étant notre culture africaine, vous allez voir que toute l'économie, toute la politique, tout le social qui l'entoure devient humain. Nous devenons des humains. Beaucoup ont perdu cela et ils sont déshumanisés. Et donc ils organisent leur vie, leur économie, leur état dans une forme de déshumanisation qui explique pourquoi je veux contrôler l'autre, je veux influencer l'autre. Donc j'utilise l'aide qui aurait pu m'améliorer mon sort, mon bien-être, pour justement rendre l'autre dans une servitude. Et si l'autre n'est pas conscient, ne sait pas, c'est compliqué. Donc chacun doit faire un effort. Quand vous rentrez au pays, essayez d'aller dans les universités, dans les écoles, demandez un petit forum, demandez un petit quelque chose, allez parler, expliquez votre expérience, ce que vous savez faire. Si c'est le pain, expliquez comment on fait le pain. Demain, quelqu'un va se développer. Et le pain, ne prenez pas le pain qui vient que du blé. On peut faire du pain avec du sorgho, on peut faire du pain avec des produits locaux, avec l'igname. Pourquoi dans McDonald's, dites à vos Américains là-bas, pourquoi ils n'ont pas pris l'igname et la loco et la banane plantain? Et qu'on mange toujours les pommes de terre? Vous voyez? Toute l'Afrique peut fournir l'igname. Il suffit de couper l'igname en plusieurs morceaux et vous pouvez repiquer et vous allez refaire de l'igname. Voilà de la valeur ajoutée. C'est que nous ne voulons pas nous-mêmes voir où sont nos richesses et à partir de là, les difficultés. Alors, si des groupes d'experts africains dédiés à l'Afrique et aux populations peuvent de temps en temps se réunir, identifier un ou deux ou trois points comme ça, les mettre en valeur et développer ce qu'on appelle les chaînes de valeur de production, C'est-à-dire que vous prenez uniquement le manioc, regardez tout ce que nous pouvons faire avec le manioc dans nos pays qui sont et nous donnent la bonne santé jusqu'à l'exporter. Vous voyez bien que cette Afrique-là ne peut pas rester pauvre. Elle ne peut pas rester dans les difficultés qu'elle a. Elle ne peut pas rester dépendante. C'est une Afrique libre qui va demain avancer et se libérer de cette aide-là qui ne fait que nous rendre des esclaves sous une autre forme, bien sûr, économique, alors que nous avons quitté une forme d'esclavage politique il n'y a pas longtemps.
Merci, docteur. Donc, l'Afrique peut renaître de ses cendres et se développer si nous le voulons très bien. Merci. Absolument. Pour votre intervention. Notre émission tire à sa fin, mais avant de vous laisser partir, pourriez-vous nous parler un peu de votre, de l'organisation que vous dirigez, Afrocentricité, si je prononce bien le mot?
Alors, c'est une bonne question. L'afrocentricité, ce sont des intellectuels africains, essentiellement, mais pas que. Nous avons aussi toute personne qui aime l'Afrique. Toute personne qui pense africain. C'est-à-dire qui pense que l'humanité vaut la peine d'être vécue en partenariat sans détruire l'autre, sans annihiler l'autre, sans contrôler l'autre. Mais qu'on peut échanger, celui-là peut écrire sur n'importe quel sujet et nous corrigeons, nous mettons en ligne pour éduquer. Donc l'afrocentricité consiste à faire que vous pensez de votre point de vue d'humain, votre point de vue de l'humanité qui dépasse même la notion africaine. À partir de là, vous allez voir que tout ce que vous allez dire ou faire est différent. Tout. Ce que vous allez faire et dire est différent. La façon dont vous allez organiser, présenter un événement d'un point de vue africain n'est pas la façon dont on va vous le présenter aux États-Unis, à Londres, à Marseille ou bien quelque part à Berlin. C'est très important. Nous sommes les seuls peuples qui continuons toujours à croire que ce que dit l'autre est vrai. Il ne faut pas accepter cela parce que l'autre dit ce qu'il dit par rapport à lui. Et moi, je dois dire ce que je dis par rapport à moi, mes valeurs à moi. J'ai une valeur de l'humanité dont je vais dire les choses en façon de... Ça ne veut pas dire pour cela que je vais me laisser marcher sur les pieds. Mais c'est pas bon cette valeur-là. Ce n'est pas parce que l'autre est un assassin que moi-même je dois être un assassin. La deuxième chose qui est très importante dans la faux-scientificité, quand nous disons, nous devons être pédagogiques, quand vous lisez normalement les articles chez nous, vous devez avoir une information nouvelle et vous devez comprendre ce que nous disons. Donc nous refusons ces intellectuels qui viennent nous faire des jolies phrases compliquées qu'on ne comprend rien dans ce qu'ils veulent dire. Ils ne sont pas allés à l'école pour compliquer. Ils sont allés à l'école pour simplifier. Donc, afrocentricité cherche à simplifier les choses. Et nous disons la vérité. C'est-à-dire que quand nous avons compris qu'on est en train de nous piéger, de nous dire des mensonges, dire des choses fausses, alors nous faisons une analyse individuellement, collectivement. Nous travaillons souvent par Internet, puisqu'il y a des gens qui sont dans différents pays. Et quand nous sommes d'accord sur un point, alors quelqu'un l'écrit, nous mettons son nom, ou bien je le signe, et nous le mettons en ligne, et nous voyons avec les retours que ça... Les gens qui ont lu ça sont satisfaits, sont au courant. Et des fois, même, ils nous écrivent, écoutez, il y a tel ou tel sujet, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir à ça et nous faire un petit résumé là, qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe de tel ou tel événement. Tout cet ensemble arrive à faire que, et contribue à ce qu'on a dit tout à l'heure, que vous puissiez devenir autonome, libre, dans votre réflexion. Quand vous pensez libre. Parce que vous ne pouvez pas penser si vous êtes dépendant de quelqu'un. Vous devez être libre. Et liberté, c'est... en fonction de votre humanité. Si c'est en dehors de ça, alors vous êtes nécessairement quelque part un assassin.
Ok, merci docteur. Le temps qui nous est imparti est épuisé. Mais votre dernier mot pour nos auditeurs.
Écoutez, moi je suis d'abord reconnaissant que vous avez pu identifier Afrocentricité comme un think tank, un groupe de réflexion, de pensée pour les Africains de la diaspora. J'espère beaucoup que votre radio et vos sites puissent continuer à informer et éduquer nos populations. Et je souhaite vraiment que tous ces sites, tous ces radios, un jour, puissent se mettre ensemble pour devenir un vrai centre de la connaissance, de la compétence africaine. Et en cela, l'Afrique que vous voyez là, 54 États, qui n'avaient pas de frontières, que d'autres sont venus mettre il n'y a pas longtemps encore, redeviennent cette Afrique-là où l'unité règne et non pas l'unité des syndicats des chefs d'État.
Merci docteur pour votre intervention. Une fois encore, grand merci pour avoir accepté notre invitation dans cette émission malgré votre emploi du temps très chargé. Eh bien, chers amis auditeurs, vous êtes dans l'émission Afrique en mouvement depuis Moline. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce jour. Nous avons débattu du thème ou bien de la problématique de l'aide au développement à qui ça profite réellement. Et nous avons reçu depuis Vienne en Autriche, Dr Yves Kwe-Amaizo. Merci et à la prochaine.
Allô?
Oui, oui.
Je suis à l'aéroport pour le parking.
Tu vas où?
Je vais au pays pour... Parce que ça fait longueur du rectangle. Je ne peux écouter les nouvelles et de mes familles. C'est pourquoi je suis prêt pour le parti.
Donc tu retournes au pays juste pour avoir les nouvelles de ta famille?
Oui, parce que ma femme, il y a le mais les enfants, il y a le...
Tanga, attends. Tu sais pourquoi je t'appelle?
Non.
C'est parce qu'il y a une solution pour ça.
Solution pour ça, hein?
Oui, bon,
et puis tu es là depuis le matin jusqu'à
les... Pourquoi je t'appelle? Voilà, maintenant je suis là pour toi.
Bon, quelle est la solution maintenant?
Eh bien, la solution c'est GoCall Togo. Une carte téléphonique internationale à faible coût d'appel.
Carte téléphonique?
Oui, oui.
C'est différent de notre téléphone. Hey, c'est combien?
À seulement 23,9 cents par minute et sans frais de connexion, GoCall Togo vous met en contact avec vos bien-aimés à tout moment.
Hey, bon,
pour un temps limite, obtenez une réduction de 10% sur vos premiers achats de charte sur le www.gocalltogo.com en utilisant le code promo TOGO10.
Donc, c'est www.gocalltogo.com, c'est le site.
Commencez par épargner dès aujourd'hui sur vos coûts de communication vers le Togo en utilisant les cartes GoCall Togo.
GoCall Togo, la solution qui ne s'appelle problème en poste.
Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris, et à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Je vous demande pardon. 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 À tous ces soldats tombés, à tous ces innocents couchés, à tous ces cœurs meurtris, pardonne-moi, j'ai failli. J'aurais dû trouver une solution pour museler ces canons. J'aurais dû trouver la solution pour museler ces canons. J'aurais dû, oh, j'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais dû, j'ai fait ce que j'ai pu. Dans ce miroir où mon orgueil défie mon ego, je sais que dans ce monde nous ne sommes pas égaux. Mon regard a rencontré mes yeux et mes yeux ont baissé les yeux devant cette absence d'humilité. Ma faiblesse est dans ma vanité. Et c'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. je vous demande pardon. Ce jour si loin, mais si près, je m'en irai. Je lui dirai, pardonne-moi, éternité. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, j'en ai pleuré des rivières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. Je vous demande pardon.
Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.